qui a certainement marché longtemps, il a beaucoup marché, il est parti loin, on ne sait pas quelle distance, mais certainement très très loin de chez son père. Il a pris tout l'argent qu'il a pu, tout son héritage, il a tout dépensé, s'est bien amusé, et puis finalement, il s'est retrouvé, il n'avait plus rien. Il a fallu qu'il travaille, et donc le seul travail qu'il a pu trouver, c'était de garder les pourceaux. Et il n'avait même pas à manger, il a fallu qu'il se nourrisse des aliments dont se nourrissaient aussi les pourceaux, les caroubes. Et voilà donc cette histoire. Mais bon, elle ne s'arrête pas là, heureusement, elle ne se termine pas là. Jésus nous raconte la suite. Eh bien, ce garçon s'est souvenu de quelque chose de fondamental, qu'il avait oublié. Mais ça lui est revenu, comme ça fait clac, la lumière lui est revenue. Et cette lumière qui lui est revenue, c'est qu'il avait quelque part une maison. Il y avait un foyer. Et je suis certain, quand il a commencé à penser à ça, que tout lui est revenu en mémoire. Tout ce qu'il avait vécu dans cette maison, tous les moments merveilleux auprès de son père, toutes les bonnes discussions, tout le travail formidable qu'il pouvait faire dans la maison de son père, avec les serviteurs, avec son frère là-bas, et peut-être même qu'il avait des sœurs. Toute cette famille extraordinaire, toute cette joie qu'il y avait dans cette maison, cette chaleur. Et il ne manquait aucune nourriture, rien du tout. Et finalement, il s'est levé et il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il est revenu chez lui, dans sa maison. Mais moi, je crois que cette histoire, de toutes les histoires que Jésus a racontées, c'est l'histoire la plus significative de la condition humaine. Ça, c'est la condition de l'homme, fondamentale. Et c'est notre condition. Tous nous sommes dans cette situation. Tous, nous avons perdu notre foyer, notre maison. Nous sommes partis loin. Et nous n'avons pas vécu la vie que nous devrions vivre. Nous avons vécu bien en dessous de la vie à laquelle nous étions appelés. Nous nous sommes nourris de choses qui n'étaient pas des bonnes choses. Nous avons dépensé notre argent bêtement, inutilement. Nous nous sommes appauvris. Nous sommes devenus médiocres dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes allés loin. Nous avons voulu faire notre vie. Ça, c'est l'autonomie de l'homme. Je me débrouille. Vous savez, j'ai raconté ça, le film, ce que dit dans American Beauty, la mère à sa fille, la première chose qu'elle dit dans le film, tu dois apprendre une leçon. C'est que dans la vie, on ne peut compter sur personne que sur soi. Voilà ce que croyait ce garçon. Je ne veux compter que sur moi. Mais il s'est souvenu, il s'est rendu compte que s'il se comptait que sur lui, ben c'était pas grand-chose. Il s'est souvenu qu'il avait une maison, un foyer. Quelle expérience! Jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai beaucoup bourlingué. Beaucoup. Plus que beaucoup d'autres enfants. À l'âge de 6 ans, je me suis retrouvé sur un paquebot au Havre. Je ne savais même pas que j'allais sur ce paquebot. On ne m'avait rien expliqué. On m'avait mis dans un taxi, on m'avait emmené au train à Paris, et du train, on m'avait emmené au Havre. Et là, j'étais sur un bateau, un paquebot, et je me suis retrouvé 7 jours plus tard à New York, où j'ai vécu 3 ans, loin de ma famille. Je suis revenu, je me suis retrouvé chez ma grand-mère. Ma mère ne savait pas que j'étais là. Quand elle a su que j'étais là, elle a hurlé, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Mais enfin, on aurait pu me prévenir quand même. » Et j'ai vécu chez les tantes et chez les oncles. Et puis comme ils en avaient assez de moi, parce que j'étais quand même assez chaleureux, et je cassais beaucoup de choses et je me mettais souvent en colère, et bien ils ont dit, la bonne solution, c'est de me mettre en pension. Et donc je me suis retrouvé dans des pensionnats. Et même dans un orphelinat, alors que je n'étais pas orphelin. Dans les pensionnats où on ne mangeait pas beaucoup non plus. On mangeait mal, on avait froid l'hiver. Parfois on nous frappait. Et j'ai fait plusieurs de ces pensionnats. Pratiquement, je peux dire que j'ai vécu toute mon enfance comme ça. Et donc je peux dire qu'il y a une chose qui m'a toujours manqué dans mon enfance, c'est un foyer, une vraie maison. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous, mais je peux comprendre cette histoire. Et ça, c'est notre histoire. Même si vous avez une famille, même si vous avez une maison et des parents, cela ne peut pas remplacer la maison du Père. Car il y a toujours quelque chose dans les meilleures familles, et il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il y a toujours des choses qui nous rendent tristes. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde déchu. Et le péché ternit même les meilleures choses, comme je l'ai expliqué. Et nous avons besoin de revenir à la maison du Père. L'Église dont nous parlons ce soir, ce n'est pas autre chose que cette maison. J'aimerais bien que nous puissions parler davantage de la maison de Dieu, du foyer de Dieu, plus que de l'Église. Parce que le mot Église, avec les siècles, a pris tellement de significations fausses et dénaturées que pratiquement si on dit le mot Église à quelqu'un, il est très difficile pour cette personne de comprendre. Très difficile. Mais l'Église dans la Bible, ce n'est pas autre chose que la maison. le foyer du Père, le foyer céleste, là où nous trouvons tout ce qui nous manque. L'Église, la maison de Dieu, elle est comme n'importe quelle maison fondée sur quelque chose. Elle a une fondation solide. Quelle est cette fondation? Quelle est cette fondation? La Bible me le dit. Je vais vous lire un texte dans la Bible. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le fondement, la fondation de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est tout ce que Jésus a fait dans sa vie, de sa naissance à sa mort jusqu'à sa résurrection. C'est tout ce qu'il a enseigné aussi. Ça, c'est le fondement de l'Église. Chaque chose qui est dite dans les évangiles concernant notre Seigneur Jésus fait partie de ce fondement solide de l'Église. C'est là-dessus qu'est fondée la maison de Dieu, l'Église. L'apôtre Pierre, lui aussi, nous le dit dans un de ses textes. Non, ça c'est Jacques, il est un petit peu plus loin. Approchez-vous de lui, Jésus-Christ, hein, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Ça, c'est le fondement de l'Église. C'est cette fondation, c'est cette pierre que Dieu a placée et sur laquelle il veut bâtir son Église. Sur ce fondement, sur cette pierre principale, Jésus-Christ, il y a encore autre chose qui vient, que Jésus a voulu. Et ce fondement-là, qui vient sur Jésus-Christ, c'est ce que la Bible appelle le fondement des apôtres. Les apôtres aussi font partie de cette fondation. Vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est vrai que la vie de Jésus, son enseignement, tout ce qu'il a fait, c'est la pierre angulaire sur laquelle toute l'Église est bâtie. Les apôtres aussi sont fondement de l'Église. Leur vie, ce qu'ils ont fait dans leur vie, et surtout leur témoignage à Jésus-Christ. Et la plupart sont morts pour ce témoignage. Et leur enseignement fait partie du fondement de l'Église. L'enseignement donc de Jésus-Christ et sa vie, l'enseignement des apôtres et leur vie, voilà sur quoi la maison de Dieu est bâtie. Et donc il est important pour nous de considérer que cela, c'est-à-dire le Nouveau Testament en réalité, l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres, c'est le fondement sur lequel nous pouvons bâtir la maison de Dieu et l'Église. Alors l'apôtre Paul dit à Timothée, « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Il n'y a pas à changer ce fondement. Une fois qu'il a été posé, voici bientôt 2000 ans, il n'y a pas à le changer. Nul homme ne peut le changer. Nul homme, dit Paul, ne doit poser un autre fondement. Il a été posé. Dès que Jésus est venu, ce fondement a été posé par Jésus-Christ lui-même. Cette Église, fondée sur Jésus-Christ, elle a des caractéristiques, plusieurs, mais je voudrais en mentionner trois, parce que ce sont trois caractéristiques dont j'ai parlé au cours de toutes ces conférences. L'Église de Jésus, ou la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a une chose qu'on va trouver, qu'on doit trouver, c'est la joie. Si dans une église il n'y a pas la joie, je doute qu'elle soit l'église du Christ. Ou alors c'est une église du Christ bien malade. Car dans l'histoire du fils prodigue, s'il y a une chose qui ressort dans cette histoire, que Jésus fait bien ressortir, c'est la joie. Dans l'évangile de Luc. Lorsque le fils est revenu, il est souligné que toute la maison s'est réjouie. On a tué le veau gras et on a fait la fête, on s'est réjoui. La joie, c'est fondamental. Pour l'Église. Une deuxième chose qui est très importante dans la vie de l'Église, qui caractérise l'Église, et nous en avons parlé, c'est la paix. Une Église où il y a la guerre, où les gens sont en conflit, où les gens n'ont pas confiance les uns dans les autres, ça ce n'est pas l'Église du Christ. Ou alors, s'il y a des conflits et des guerres dans cette Église, c'est une Église bien malade. Et qui doit, comme l'Apocalypse le dit, se repentir. Car des fois l'Église doit se repentir, comme des fois dans les meilleures familles, il faut se remettre en question. Il faut s'asseoir à table et dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Il y a assez de disputes, les enfants. Il y a assez de disputes, papa et maman. Il faut vous calmer. Hein? C'est un peu ça aussi, des fois, dans les familles, quand il n'y a pas la paix. Et une troisième chose qui doit absolument caractériser l'Église, et nous en avons parlé, c'est l'amour. Alors, ce n'est pas par hasard que j'ai parlé ces trois choses au cours de ces trois soirées. Car l'apôtre Paul, en parlant du fruit de l'esprit, il mentionne d'abord ces trois choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il ajoute la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, il y a une chose intéressante, c'est que l'apôtre Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est toutes ces choses. C'est-à-dire que c'est un fruit, et pourtant c'est plusieurs choses. Pourquoi ? Bien, c'est parce qu'on ne peut pas dissocier ces choses les unes des autres. Vous ne pouvez pas dissocier la joie de la paix, et la paix de l'amour, et l'amour de la patience, ou la patience de la maîtrise de soi. Toutes ces choses vont ensemble. Il suffit qu'il y ait une de ces choses qui ne soit pas là, pour que tout le reste s'écroule, pour que le fruit soit pourri. S'il n'y avait pas la joie dans l'Église, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a pas la paix dans l'Église, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne manque et qui ne va pas, elle va infecter, elle va détruire peut-être même toute l'Église, parce qu'il y a cette chose qui manque. C'est un fruit, mais il y a différents aspects à ce fruit. Donc c'est pour ça qu'il était important d'en parler. Bon, on avait un temps limité, donc j'ai parlé de ceux que je considérais importants, que Paul mentionne d'ailleurs en premier, l'amour, la joie, la paix. J'aimerais, c'est un petit peu un résumé ce soir, de ce que j'ai dit au cours des soirées, j'aimerais redire certaines choses concernant ces trois choses. D'abord la joie. La joie dont parle la Bible, ce n'est pas la gaieté. Ce n'est pas le sourire continuel et permanent, Colgate, le meilleur dentifrice. Ce n'est pas cela la joie. Car on peut pleurer. On peut, par exemple, assister à l'enterrement de sa femme, ou à l'enterrement de son enfant, ou de sa maman, et toujours avoir la joie de Jésus-Christ. C'est certain. Parce que c'est une joie que même la mort ne peut pas nous prendre et nous enlever. Alors qu'est-ce que c'est la joie si ce n'est pas la gaieté ? Il y a une bonne explication qui nous est donnée dans la Bible. Quand nous avons cette exhortation de Paul, quand il nous dit ceci, « Réjouissez-vous, c'est dans Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. » La joie, c'est de nous réjouir, mais pas dans n'importe quoi. C'est de nous réjouir, non pas que nous allons gagner plus d'argent, hein, non pas que nous allons manger un bon repas. Ce n'est pas cela dont nous devons nous réjouir. Ces choses sont bonnes, mais nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Ça veut dire, la vie de l'Église, c'est une vie dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'une vie dans le Seigneur ? C'est une vie dans la parole de Dieu, par exemple. Si vous vivez dans la parole de Dieu, vous aurez la joie. La parole va vous donner de la joie, je vous le garantis. Et peut-être si vous n'avez pas de joie, c'est peut-être que vous ne lisez pas la parole. C'est de vivre aussi dans le pardon de Dieu. Car nul de nous n'est parfait, sans péché, nous sommes tous pécheurs. Nous nous trompons même sur la Bible dans certaines choses. Heureusement que nous avons la grâce de Dieu et son pardon. Nous réjouir dans le Seigneur, c'est aussi nous réjouir dans le pardon de Dieu. S'il n'y a pas de pardon, l'Église est malade. Et nous sommes malades. La joie, c'est aussi de servir autrui. Jésus l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la joie aussi. Toutes ces choses, et on pourrait faire une liste bien plus grande, sont des sources et des occasions de joie. Bon, ce n'est pas la joie selon le monde, ce n'est pas la gaieté, mais ça, c'est la joie profonde. Et cette joie-là, dans le Seigneur, elle enveloppe tout le reste de notre existence. Ça, c'est la vie de l'Église dans le Seigneur. Et la paix. Bien, la paix, c'est une condition de survie de l'Église. Nous en avons parlé de la paix. Je vais vous lire un texte qui parle de la paix dans l'Église, justement, puisque c'est si important. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous savez, il existe des familles où il y a de la violence. Il existe des familles où le papa ou la maman se frappent. J'ai connu cela dans ma jeunesse. Il existe des familles même où il y a des meurtres. Des frères et des sœurs, des maris et des femmes qui sont violents l'un vers l'autre. C'est tragique. Et c'est encore plus tragique si c'est dans la famille de Dieu. Car nous ne savons pas jusqu'où nous pouvons aller lorsque nous commençons à être amers, à être agressifs, et à manquer de ces qualités dont parle la Bible, la miséricorde, la compassion, la maîtrise de soi, nous ne savons pas jusqu'où nous pouvons aller. Et l'histoire de la chrétienté nous l'apprend. Jusqu'où n'est-on pas allé au nom de la foi, au nom de maintenir la pureté de l'Église, au nom d'une certaine orthodoxie, au nom de combattre les hérésies, bien jusqu'à brûler les gens en croyant bien faire, en croyant servir Dieu. C'est dramatique. Mais vous savez, cette pente sur laquelle est tombé tous ces gens dans l'histoire, dans le passé, nous pouvons tomber sur cette même pente. Nous pouvons faire la même chose sans nous rendre compte. Nous pouvons faire le même esprit d'inquisition sans nous en rendre compte. Nous pouvons brûler les gens, non pas sur des bûchers, mais par nos mots. Car l'apôtre Jacques dit que la langue est un feu qui dévore. Il est facile de détruire une réputation, de détruire une personne, de détruire un frère ou une sœur par quelques mots. Or là, est-ce que nous sommes chrétiens ? Alors là, est-ce que nous vivons dans la paix ? Non, nous sommes en guerre. Et c'est tragique. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. L'Église, donc, pour être en paix, elle doit être zélée pour les bonnes choses. Elle doit être en guerre contre le mal, contre le mensonge, contre le péché. Mais elle doit être zélée pour tout ce qui est bon. Alors, nous avons un texte très important sur cette vie paisible qui doit exister entre chrétiens. Et c'est le texte de Jacques qui est très long, que je vais vous lire. Très long, non, parce qu'il y a 8 versets, c'est pas très long. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Je pense qu'il devait dire ça parce que souvent dans l'Église, on dit « Moi, je suis intelligent », mais alors les autres, ils comprennent rien. Alors, une leçon. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Eh bien, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Deux fois, l'apôtre Jacques emploie l'expression « un zèle amer ». Certains exégètes ont proposé comme traduction de « zèle amer » fanatisme religieux. D'autres ont proposé sectarisme. Je pense qu'ils ont raison, car là est le sens du zèle amer. Le chrétien et l'Église doivent être caractérisés, pas par le fanatisme, mais par ces choses qui sont mentionnées. Le pacifisme, il est pacifique le chrétien. Il n'est pas en conflit, en guerre permanente. Caractérisé par la modération, il est conciliant, il est miséricordieux. Moi, je comprends quelque chose dans le mot modération et conciliant, une chose importante. Dans l'Église, on n'est pas des extrémistes. On n'est pas des extrémistes. C'est pas vrai. On ne peut pas être des extrémistes. Si nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons à quel point parfois les chrétiens doivent admettre et accepter certains frères plus faibles pour qu'ils puissent grandir et avoir le temps de comprendre. Et nous voyons comment les plus âgés en particulier, ceux qui sont dans la foi depuis plus longtemps, doivent être très prudents comment ils parlent et ils traitent les plus jeunes et les plus petits. Or ça c'est exactement comme dans une famille. Tous ceux qui, d'entre nous qui avons élevé une famille, nous savons très bien, tous ceux d'entre nous qui avons été mariés, nous savons très bien, nous ne pouvons pas toujours avoir raison. Et nous sommes obligés parfois de laisser le temps faire son œuvre. Nous sommes obligés avec notre épouse d'être conciliants, d'être miséricordieux, d'être pacifiques et aussi d'être modérés. Nous sommes obligés aussi avec nos enfants. Si nous sommes trop durs, trop intransigeants, si nos paroles frappent et blessent, eh bien nous aurons des problèmes dans nos familles et nous aurons des gros problèmes dans l'Église. C'est aussi comme ça que je comprends la paix dans l'Église. C'est tout un travail. Et il y a tout un enseignement dans le Nouveau Testament dans ce domaine-là. Troisièmement, ce qui caractérise l'Église, c'est l'amour. Et nous savons, d'après ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 13 sur l'amour, que nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses sans avoir d'amour. Nous pouvons même être brûlés pour notre foi sans avoir d'amour. Nous pouvons même donner tout notre argent sans avoir d'amour. Nous pouvons même prophétiser et parler au nom de Dieu et parler des langues des anges, il dit, 1 Corinthiens 13, sans avoir d'amour. Ça aussi, c'est très important. L'Église, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut croire qu'elle est zélée et qu'elle fait beaucoup de choses. Mais si elle n'a pas cet amour qui nous est décrit en 1 Corinthiens 13, eh bien, l'apôtre Paul nous dit une chose importante. Tout ce que vous faites est totalement inutile. Et ça ne mène à rien, parce qu'il n'y a pas l'amour. Et c'est dans ce sens aussi, quand on voit l'histoire de la chrétienté, que souvent l'Église est allée. Quand on est allé convertir des peuples au 5e, au 6e siècle et encore après, et qu'on a dit à ces peuples, écoutez, vous avez le choix. C'est la liberté à laquelle Christ vous appelle. Ou bien vous êtes baptisés, ou bien on vous coupe la tête. Vous voyez, vous avez le choix. Eh bien ça, ce n'est pas l'amour chrétien. La conversion par la force, et aussi la conversion par la manipulation mentale, comme certains essayent de faire, ce n'est pas le christianisme. C'est la forme peut-être, l'extérieur et les mots du christianisme. Ce n'est pas le fond du christianisme. Parce qu'il n'y a pas que ces choses dont nous voyons ici. La compassion, être pacifique, miséricordieux, compatissant, modéré aussi dans notre comportement. Donc, l'amour doit être une caractéristique fondamentale de l'Église. Et il y a des détails, vous savez, qu'on peut faire ressortir dans une étude comme celle-là. Par exemple, si je vous disais que la Bible interdit formellement, d'une manière catégorique, qu'un chrétien se lève dans une assemblée ou qu'il se trouve au milieu de ses frères et qu'il commence à leur parler avec dureté et en les insultant. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 5, verset 11, que celui qui fait ça, il doit être exclu de l'Église. C'est un péché d'être dur et de blesser les chrétiens par des mots. Et si on étudie le mot grec, ça veut dire littéralement celui qui blesse son frère par ses mots. Celui qui blesse son frère par ses mots n'a pas lieu d'être dans l'Église. Ce n'est pas que la débauche. Ce n'est pas que l'immoralité sexuelle. C'est aussi comment nous parlons les uns les autres. C'est très important. Car nous savons que la langue est le pire des instruments pour faire du mal et pour détruire. L'apôtre Jacques nous le dit. Nous devons donc surveiller. Si nous ne surveillons pas cela, nous allons aller à l'encontre de l'amour. Et nous allons avoir une Église qui sera morte ou bien malade. Dans cette question d'amour, il y a une énorme responsabilité dans l'enseignement de Jésus qui est placée sur les grands par rapport aux petits. Ça, c'est bien normal. De même que dans une famille, le père, la mère, doivent montrer l'exemple aux plus petits. Ils doivent faire attention que les petits ne se découragent pas. Qu'est-ce que nous dit Jésus dans Matthieu 25, si j'arrive à retrouver, Matthieu 25, 40. On va lire ce texte parce que je crois que ça s'applique à la vie de l'Église. Matthieu 25 et verset 40. Je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Comment nous traitons les plus jeunes et les plus petits? Vous savez, il y a deux excès dans lesquels on tombe en tant que parent ou peut-être en tant que dirigeant d'église ou que responsable d'église. Deux excès. Soit nous sommes trop durs ou soit nous laissons faire n'importe quoi. Et tout au long de l'histoire chrétienne, on voit que c'est ça. Et c'est vrai, dans l'éducation de nos enfants, nous sommes sans cesse à trouver un équilibre entre ces deux choses. Cet équilibre, nous devons le rechercher aussi dans l'Église. Parce que nous avons la même tendance dans l'Église. Soit nous parlons trop durement, nous sommes trop durs, ou soit parfois il peut exister des cas où les jeunes peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas grave qu'ils fument, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils aillent en boîte, n'importe quoi, c'est pas grave. Puisqu'ils viennent à l'Église régulièrement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a des extrêmes là. Mais la Bible nous dit, nous devons être modérés, nous devons avoir un équilibre dans notre vie spirituelle. L'espérance en Jésus est donc fondée sur une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voulons retrouver l'espérance, vous voulez trouver l'espérance, il faut retourner à ces évangiles, à ces quatre évangiles, revoir cette vie de Jésus-Christ, voir ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, réfléchir à sa mort et à sa résurrection. Ça, c'est la première source d'espérance. Si vous voulez trouver l'espérance, vous ne le trouverez pas en dehors de l'évangile. Cette espérance est source de joie. Elle est source de paix. Elle est source d'amour. L'Église, c'est quoi? C'est l'espérance vécue ensemble. L'espérance vécue ensemble. Et je le répète parce que je l'ai dit au cours des soirées, l'espérance a rapport à deux choses principalement. D'abord, c'est l'espérance d'être délivré du mal. J'oublie le mal, le péché. Le mal que nous nous infligeons à nous-mêmes, que nous infligeons aux autres, nous avons l'espérance d'en être délivrés parce que Jésus est mort. C'est le pardon de Dieu. Et c'est deuxièmement l'espérance d'être délivré de la mort par la vie éternelle aussi. Ces deux choses-là. Alors, vivre le pardon de Dieu et vivre l'espérance de la résurrection ensemble, c'est une chose merveilleuse. Et c'est cela l'Église. C'est quand les hommes et les femmes vivent ces deux choses, ces deux espérances fondamentales ensemble. Il ne faut jamais oublier, nous sommes destinés à être pardonnés et à nous pardonner les uns les autres, et nous sommes destinés à la résurrection. Alors c'est vrai qu'il y a c'est important la vie de l'Église, c'est important de prendre le repas du Seigneur, c'est important de chanter Dieu, de faire ce qu'il faut comme Dieu le demande. Mais ce qui est encore plus important, ce que nous devons jamais oublier, c'est cette résurrection. L'Église, c'est un temporaire sur cette terre. L'Église a une destinée glorieuse, future, dans la résurrection. Et il y aura une autre vie dans la résurrection, une vie beaucoup plus glorieuse que celle que nous avons. Donc c'est vrai que nous devons nous attacher à avoir une vie d'Église, mais nous devons aussi voir la résurrection et ne pas perdre de vue cette espérance. Sinon, comme l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Alors quand nous vivons ces choses dans l'Église, dont j'ai parlé, la joie, quand nous avons la joie dans l'Église, celle dont nous avons parlé, quand nous avons la paix dans l'Église, quand nous avons l'amour dans l'Église, déjà ces trois choses ensemble, mais nous pouvons vraiment dire que notre espérance, elle est bien fondée. Que notre espérance, non seulement elle est fondée, mais elle ne va jamais périr, elle ne va jamais disparaître, elle va grandir. Mais non seulement cela, mais elle va se transmettre aux autres. Ce n'est pas difficile d'évangéliser. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de méthode dans la Bible pour évangéliser. Il n'y a pas de méthode. La chose qu'il faut, c'est que nous ayons tant de joie et tant de paix et tant d'amour entre nous que ceux qui sont dehors et qui manquent cette joie, qui manquent cette paix, cet amour, puissent nous voir dans notre vie, nous voir ensemble et dire « Ah, c'est formidable, comme ils sont, comme ils s'aiment. » C'est ce qu'on disait les premiers chrétiens. Et je ne vois pas de raison qu'on ne puisse pas le dire les chrétiens d'aujourd'hui. Comme ils sont dans la joie, comme ils sont dans la paix et comme ils s'aiment. Alors, on ne le dit pas souvent quand on parle des églises. Il y a toutes sortes de raisons, mais il peut y avoir une raison fondamentale. C'est qu'effectivement, nous n'avons pas la joie et la paix et l'amour que nous devrions avoir. Donc il faut travailler là-dessus. L'espérance nous y aidera. Je crois que le thème de l'espérance, c'est un thème qu'il ne faut pas faire une fois par an ou pour une campagne. Ça doit être le thème de l'église. Ça doit être le thème de chaque dimanche qu'on se réunit. Ça doit être le thème de chaque parole qu'on se dit entre chrétiens. Ça doit être le thème de chaque étude. Quelque part, il faut que l'espérance soit toujours présente dans notre langage, dans notre comportement, dans notre enseignement, dans l'évangélisation que nous faisons. Il faut toujours qu'elle soit là, présente, l'espérance. Pensons-y, ne l'oublions pas. Travaillons là-dessus. Et puis si nous avons du mal, ben, il y a une chose que nous pouvons faire. Déjà en tant qu'Église, eh ben, nous pouvons demander l'aide de Dieu. Ça, nous pouvons toujours demander. Et si nous le demandons, Jacques nous le dit, nous l'accordera. Ce que nous demandons. Car c'est une bonne chose de demander cela. D'avoir l'espérance mieux fondée, mieux vécue, qui puisse se communiquer aux autres. Demandons au Seigneur, persistons dans cette prière, dans cette demande, et nous verrons comment Dieu va nous aider et va nous faire grandir en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu.